en 2 minutes que les machines. Jacob dit à Joseph, prenons si vous voulez, dès le verset 13, un verset précédent. Vayomer Israël et Yosef. Et Israël, Jacob nommé Israël, dit à Joseph, Halo achecha roaim bishchem. N'est-ce pas que tes frères font paître le troupeau à Shrem, Sichem? Lecha veeshlachacha. Va et je t'enverrai à Léhem, vers eux. Vayomer lo hineni. Et Joseph lui a dit, me voici. Or, tout de suite, vous allez remarquer que c'était extrêmement imprudent de la part de Jacob. On vient d'apprendre que Jacob sait que les frères veulent condamner Joseph à mort. Et qu'est-ce que Jacob innocemment apparemment dit à Joseph? Tu sais, tes frères sont bergers là-bas. Va, va quoi, va. Et Joseph dit, je suis prêt. Donc il sait à quoi il s'attend. Ça veut dire, va te faire juger. Verset 14. Va yomerlo. Alors il lui dit, Lechna, va donc, re et shalom achicha. Va voir la paix de tes frères. Alors qu'il sait qu'ils ne sont pas en paix. Ve et shalom atzon, et la paix du troupeau. Va jiveni davar, et ramène-moi une parole. Retenez cette expression, va jiveni davar, et ramène-moi une parole. Ça veut dire, rends-moi une réponse. Est-ce qu'il y a la paix entre toi et tes frères? Et il l'envoya, et Jacob envoya Joseph de la vallée de Hébron, et Joseph arriva à Shrem. Qu'est-ce qui se passe à Shrem? Les frères de Joseph vont le faire passer en jugement, le condamner à mort comme traître à l'histoire d'Israël. Et vous savez que chaque fois qu'une messianité commence par l'intituler Joseph, elle s'installe comme rivale de la messianité d'Israël. Vous savez cela? C'est clair ce que je dis. Parce que c'est le rêve, si vous voulez, la tentative, la tentation de mettre entre parenthèses l'identité hébraïque d'Israël pour le salut de l'humanité chez elle à l'extérieur. Le Joseph de la Bible, celui-là, in extremis, va se sauver de ce risque de dénaturation. Il va apparaître tout le temps de son histoire comme au service de l'Égypte, comme s'il était égyptien. À la dernière minute, si j'ose dire, à la dernière seconde, il se reprend des bras de la femme de Poutiphar. Vous vous rappelez de l'histoire? Et il annonce à ses frères, lorsque Dieu se rappellera de nous, se souviendra de nous, vous ramènerez mes ossements au pays des ancêtres. Ça veut dire qu'il a loyalement vécu son propre rêve de la messianité de type Joseph au service de la civilisation du temps, au service de Joseph. Et puis, in extremis, quand il a vu que ça mène à l'échec, alors il se reprend et il laisse le déguisement entre les bras de la femme de Potiphar, qui, frustrée, l'envoie en camp de concentration. Vous connaissez, vous vous rappelez de cette histoire? Bon. Et je ne peux pas ne pas me donner le plaisir de vous rappeler que ça se passe à chaque temps de la civilisation. Chaque fois, lorsqu'une civilisation a besoin d'être fécondée par l'identité d'Israël, sous l'aspect de Joseph, parce qu'elle ressent cette nécessité que le porteur de bénédiction y amène la bénédiction, alors elle fait appel aux économistes juifs. Joseph, c'est le premier modèle de l'économiste juif. Et je ne sais pas si la femme de Poutiphar parlait l'hébreu, mais si elle parlait l'hébreu, elle aurait dit à Joseph, tu es à moi en hébreu, ça se dit à ta. C'est compris. Et revenons. Ça, il ne faut pas enregistrer, bien sûr.
Justement, cette lecture que j'ai souvent entendue s'accorde avec la lecture plus ou moins traditionnelle que Yosef, c'est le Tzadik Gamour, Yehuda Baal Tshuva. Comment ça va?
Je vais y arriver. Et bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ce Yosef de Mitzrayim, il est Tzadik Gamour, je veux dire. Il est camouflé dans sa stratégie, il se retrouve absolument tzadik. Tandis que, dans l'histoire, nous avons eu des quantités de Joseph qui ont joué à ça et qui se sont perdus. Celui-là, c'est Yosef Hatzadik. De toutes les façons, l'expression Yosef Hatzadik, c'est pour indiquer la relation aux frères. Tzadik, c'est Ben Adam Lachavero. Il est tzadik en tant qu'il est celui qui aime ses frères. Mais malgré tout, plus profondément, pour la Kabbalah, il est passé à l'épreuve de tzadik de Arayot. Et Yehuda aussi aura cette même épreuve, mais les deux sont tzadik. Je sais pas, moi j'ai jamais dit que Yehuda est appelé Baal Tchouva. Mais Yosef est tzadik, ça veut dire que malgré les apparences, et jusqu'au bout, on va croire que Joseph est traître, il se dévoilera à la fin qu'il était tzadik, ce Joseph-là. Et c'est pourquoi c'est important de mettre ça en évidence. C'est que toute l'histoire de la Bible, des Hébreux, c'est pour nous raconter que l'histoire de Joseph mène à l'échec et que la véritable messianité hébraïque est celle de Judas. On va la dire. C'est pourquoi j'avais signalé au dernier séminaire que c'est très important de voir ce qu'il est écrit dans la généalogie des évangiles, que les fondateurs du christianisme intentionnellement expliquent qu'ils vont changer de messianité et qu'ils vont abandonner la messianité de Judas qui deviendra le traître pour reprendre une messianité de Joseph. Et c'est pourquoi ils donnent comme paternité terrestre à leur Messie le nom de Joseph. Je pense que c'est clair. Avec 12 apôtres qui figurent le nom des enfants de Jacob et l'opposition entre le fils de Joseph et Judas. Cette fois, c'est Judas qui devient le traître. Donc, il y a une clé très, très claire dans cette serrure qui n'est pas fermée. Et il y a une espèce de cohérence dans l'histoire qui est extrêmement aveuglante. Le réseau des yeshivot en France, qui est le plus orienté vers cette tendance Joseph au service des nations et pour être plus sûr de soi anti-israélien, s'appelle Or Joseph en France. J'ai remarqué ça. Et alors si au moins ils appelaient ça Or Yosef en hébreu, non, Or Joseph. Bon, je les connais très bien, c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire en public ce que je leur dis en privé. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire, c'est ce visage d'Israël qui est au service de la civilisation extérieure. C'est-à-dire, dans la tradition chrétienne, ça a été très diagnostiqué. Avec le temps, ces choses s'oublient, même chez les chrétiens. Ce complot-là, les chrétiens eux-mêmes ont fini par l'oublier. Mais vous saurez que Saint-Joseph, chez les chrétiens, est précisément le patron des missions d'éducation. Chaque fois qu'il y a une mission d'enseignement, elle est sous le signe de Saint-Joseph. C'est bien cela. Bien. C'est pas pour rien.
Oui, c'est toujours.
Je ne sais pas si ils savent que Fublem, c'est déjà comme ça, mais en fait, ils doivent s'en douter.
Sauf qu'il n'a aucune descendance en christianisme. Ce n'est pas lui le père.
Bien sûr, j'ai dit le père terrestre. Le père, oui, le père nourricier. Ça veut dire que c'est vraiment un mythe raconté par des hommes qui racontent leur objet de foi. C'est un livre de foi. La première fois, c'est l'histoire. La deuxième fois, c'est le mythe, c'est évident. C'est pourquoi je dis si souvent qu'on nous raconte l'histoire d'un personnage qui n'est pas historique, qui est un personnage mythique. Tant que le mythe est vivant, il est vivant. Et lorsque le mythe n'est plus vivant, il est plus vivant. Mais c'est un personnage non hébraïque, non juif. C'est précisément l'anti-Judas. Je ne sais pas comment dire ça. Or, il est bien évident que c'est cette tendance-là qui travaille la dimension diasporique du peuple juif. Mais Yosef de l'histoire, lui est Yosef Hatzadik. Tu connais ce midrash très important que dans la traversée au désert, il y avait l'arche de la loi. Et à côté, il y avait le cercueil de Moïse. Et que les gens...
De
Joseph, je dirais. Et que les gens dans le désert, les goyim dans le désert, demandaient qui est là et qui est là. Et on leur répondait, celui qui est là a accompli celle qui est là. Et on cite des versets qui n'ont rien à voir avec les 10 commandements. On cite des versets de l'histoire de Joseph. Ça veut dire, l'histoire de Joseph a accompli la Torah, mais dans la perspective de l'identité de Joseph. Jusqu'au bout, Judas va prendre Joseph pour un traître. Jusqu'au moment où Joseph va dévoiler ce mot, cette parole de paix, lorsque Joseph va dire « Et vous remontez en paix chez votre père », alors que tout le monde est pris de panique, on a pris Benjamin au piège, on ne sait pas encore que Joseph c'est Joseph. Hein? Et Joseph dit « paix », Judas entend « paix », il dit alors « à nous deux ». Vous vous rappelez ? À ce moment-là seulement, Joseph peut faire dire à Jacob « nous sommes en paix ». Mais voilà où je voulais en venir, arraché sur ce verset, pour ceux qui ont le texte, prenez-le, et vous allez voir comment ça se relie à ce qu'a dit le Maharal. Mais Mechevron, Rachid sur verset 14. Va alors, Hebron, va. Comment le verset a-t-il pu dire? Et il l'envoya de la vallée de Hebron. N'est-ce pas que Hebron est dans la montagne? Comment Rachid le savait? Je ne sais pas, mais il le sait. Chez Néhémar, il cite un verset. Ainsi qu'il est dit dans le livre de Bemidbar, le livre des Nombres, chapitre 13, Vayahalou Banege. Ils montèrent du sud, Vayavo, à Hebron, et ils arrivèrent jusqu'à Hebron. Donc, du Negev, disons, Bercheva, pour arriver à Hebron, il faut monter. De là, on apprend que Hebron est dans la montagne. Maintenant, on peut aller vérifier, mais Rachid ne le cite pas un verset. Alors, nous, question de Rachid. Comment tu peux dire, il l'envoya de la vallée de Hebron? Réponse. Mais Etsa, Amoka, chez l'autre tzadik, à Kavur Behebron. Il l'a envoyé à partir du projet profond, en hébreu pour dire profond, on emploie le même mot que pour dire une vallée. Emek, la vallée, Amok, profond. Il l'a envoyé de la vallée profonde, du projet de ce juste enterré à Hebron, qui est Abraham, les Kayem, Machneemar, pour réaliser ce qui est dit dans le verset à Abraham, dans la vision dont j'ai parlé hier matin, Yador, Teda, Kiger, Yézar. Savoir, tu sauras que ta descendance sera étrangère. Donc voilà le raisonnement de Rachid qui justifie le Mar. Lorsque Jacob a diagnostiqué que l'exil devait recommencer, il a envoyé Joseph se faire vendre par ses frères pour accomplir la prophétie de l'exil. C'est donc parce que l'exil devait commencer que Joseph a été vendu par ses frères et non pas l'inverse. C'est pas parce que Joseph a été vendu par ses frères que nous avons été punis de l'exil, soi-disant. Vous avez compris qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Et reste notre question, et pourquoi cet exil? C'est clair. Le Midrash, d'ailleurs, intervient, c'est deux fois dans la Gemara, et nous dit, pour que Jacob puisse descendre en Égypte en gloire, alors Dieu a préparé par une préface en envoyant Joseph. D'abord, Joseph deviendra le vice-roi de l'Égypte et invitera Jacob dans la gloire. Vous connaissez ce Midrash. Donc, ça veut dire que le fait que Israël doive commencer son histoire dans l'exil s'enracine déjà au niveau de l'histoire d'Abraham. Et on ne connaît pas encore la raison. Mais ce n'est pas une faute qu'aurait faite Abraham qui est la cause que sa descendance aille en exil. Ça, c'était pour répondre à l'Armanite. Ce n'est pas non plus le fait que les frères ont vendu Joseph, que ce serait une faute qu'on est allé en exil. Tout ça, c'est les péripéties qui font que l'on va en exil. Mais oui, la cause profonde, on ne le sait pas encore, on va le savoir déjà. Okay.
Agar, la mère d'Israël.
Qui a dit ça? Ça, nous allons le voir tout à l'heure. Oui, madame. Je vous donne la référence. Okay. La référence, elle se trouve à Vaïgash, donc c'est chapitre 44. Voilà quel est le contexte. Joseph est devenu le vice-roi d'Égypte. Alors, il est toujours pris par sa propre tentative, que je rappelle, transfigurer la civilisation du temps de l'intérieur. Pour cela, il a mis entre parenthèses son identité hébraïque, il s'est mis au service de l'Égypte égyptienne de ce temps. Il en devient d'abord le conseiller aux finances, hein, et ensuite, il n'y a pas de suite, mais la suite pour lui, c'était le vice-roi. Il est à la place du pharaon. Et il attire sa famille, Jacob et le reste des enfants, dans l'Égypte pour qu'avec lui, il tente d'hébraïser l'Égypte en style égyptien. Je ne sais pas comment dire cela. Mais est-ce que j'arrive à faire comprendre que c'est tout à fait le profil du juif de diaspora qu'il y a? Et tout ce que les rabbins de la diaspora disent, c'est qu'ils sont là où ils sont pour faire passer les valeurs hébraïques. Mais à titre de quoi? À titre de la civilisation où ils se trouvent comme juifs de l'exil. Je pense que c'est clair. C'est bien clair. Vous savez que le plus grand théoricien de cette position-là aujourd'hui, c'est le Rav Soloveitchik. d'Amérique. Le Rav Soloveitchik d'Amérique. Et ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Israël. Parce que dans sa Torah, il y a aussi l'amour d'Israël. Okay? S'il n'y avait pas l'amour d'Israël, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Et bien voilà, par hasard, il s'appelle Joseph. Alors, c'est une coïncidence. Il s'appelle vraiment Joseph en plus. Alors, revenons au problème. Là, Joseph a décidé d'attirer sa famille. Pour attirer sa famille, il faut qu'il commence par attirer Benjamin. Vous vous rappelez du récit? Alors il s'arrange. Lorsque ses frères viennent acheter du blé, parce que vous vous rappelez ce qui était là hier soir, il y a de la casse en Égypte, vous vous rappelez? On broie le grain en Égypte. Et alors, il s'arrange pour faire accuser Benjamin de vol. Sa coupe, il l'a mis dans le sac, il l'a fait mettre dans le sac de Benjamin. Il fait rattraper ses frères. Il dit, on m'a volé ma coupe, et on va trouver la coupe dans le sac de Benjamin. Alors il dit, en prison. Les frères sont affolés. On dit, non, nous allons tous être en prison chez toi, mais Benjamin, laisse-le revenir chez le père, parce que si Benjamin ne revient pas chez Jacob, Jacob va mourir. Vous vous rappelez de ça? Imaginez si nous avions dans tous les thèmes qu'il y a à l'intérieur de ces détails de péripéties apparemment d'un récit anecdotique. Mais j'arrive à l'essentiel. À ce moment-là, et vous avez cela au verset 17 du chapitre 44, Joseph dit, Bayomer, Joseph dit, Khalilali, mais à Sodzot, Dieu préserve que je fasse cela, c'est-à-dire de vous prendre à vous comme prisonnier. Haïch, Asherim, Tsagaviar, Beado, l'homme chez qui on trouvera la coupe, ou Yélia Aved, lui sera mon esclave. Et voilà ce qu'il ajoute, Veatem, et vous, Alou le Shalom et l'Abichem, montez en paix chez votre père. Imaginez la scène, ils sont pleins de terreur. Et qu'est-ce que Joseph, l'homme fort de l'Égypte, leur dit? Allez en paix. Imaginez la contradiction. Okay? Alors Judas entend ce mot de paix dans la bouche de cet homme et il se dit, celui-là, c'est Joseph. Vous avez compris? Alors verset suivant. Vaïgash et la Yehuda. Alors Judas s'approcha de lui, s'approcha de Joseph. Vaïomer et il dit, Bi Adoni. Là, je vous explique longuement ces deux mots. Bi Adoni, c'est intraduisible en français. Je ne sais pas si vous avez une vie française ici. Comment on traduit ça, je ne sais pas. Mais, oui, le sens global, c'est je t'en prie, je vous en prie. Bi Adoni, fais attention à moi, Seigneur. Bi Adoni. Mais dites-moi comment ça vous traduit, là. Oui, de grâce, ok. Mais littéralement, ça veut dire Adoni, bi, mon Seigneur est en moi. Alors, je vais aller lentement, hein, parce que... Adoni, mon Seigneur, bi est en moi. Nous avons une tradition que le nom d'Israël, c'est le nom par lequel Dieu se désigne pour le monde. Il s'appelle Dieu d'Israël. Alors, prenons le mot Israël comme le nom adjectif par lequel Dieu se nomme pour l'histoire du monde. Dieu, on ne comprend pas, mais Dieu d'Israël, on commence à comprendre. Pourquoi? Si on comprend Israël, c'est clair. Et alors, chaque tribu d'Israël, c'est un Israël possible. Donc, le nom de chaque tribu d'Israël, c'est une des formes possibles du nom de Dieu pour le monde. C'est clair jusque-là. Il y a deux tribus, laisse-moi parler. Il y a deux tribus, ou ce que l'on appelle le tsirouf haotiyot, c'est-à-dire la composition des lettres, le nom de Dieu se dévoile plus, c'est Joseph et Judas. Mais le nom de Dieu, dans le nom de Joseph, est très peu dévoilé. Il commence à se dévoiler, mais peu. Il y a deux lettres, Yud-Vav, et le reste, c'est sauf la fin. Ça veut dire, le processus du dévoilement par Joseph est caché et il a une fin. Il y a une fois, dans un verset des psaumes, où ce dévoilement par Joseph est plus fort, c'est Edut Bi-Hosef, Samo, Yehosef. Et Yehosef, vous avez déjà les trois premières lettres, Yud, He, Vav, mais à la fin. Tandis que le nom de Dieu est complètement dévoilé dans le nom de Judas, puisque vous avez les quatre lettres du nom de Dieu, plus le Dalet. Alors Judas dit à nous deux, Dieu est en toi et Dieu est en moi, mais plus en moi qu'en toi. Là, c'est clair. Bon, ça veut dire, les deux tentatives messianiques ont un ordre. Celle de Joseph d'abord, mais elle a une fin. Et la fin, c'est Yamsouf. Yamsouf. Et après, commence la tentative de Judas. C'est ce que nous disons dans le verset du Hallel. c'est Israël Mimitzraïm, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Bet Yaakov Me'amloès, la maison de Jacob du peuple barbare de ce temps-là, Haïta Yehuda Lekotchou. C'est Judas qui est voué à la sainteté. Et l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de l'exil, et après, quand elle prend fin, commence l'histoire de Judas. Alors là, donc, Judas s'approche de Joseph et lui dit, toi, tu es roi, et moi, je suis roi. Toi, tu es le roi pour l'Égypte, moi, je suis le roi pour Israël. Mais bi Adoni, ça veut dire, et mon Seigneur est en moi et pas en toi. Vous avez compris le dialogue. Vous voyez qu'on peut lire ça qu'en hébreu, bien sûr. Alors, je continue. Non, je continue pas, parce que sinon, il faudrait étudier que ça, ce matin. En tout cas, c'était pour vous dire très rapidement que ce n'est qu'au moment où Joseph peut dire le mot de paix qu'il se révèle à son père. Parce que la question était, comment est-il possible que Joseph ait laissé Jacob dans l'inquiétude tout ce temps-là? Dans la cohérence du récit biblique, nous savons à quel point Jacob aime Joseph et ne peut pas vivre sans lui. C'est une des dimensions de son identité qu'il perd, qu'il croit être complètement perdu. Et Joseph le laisse dans cette inquiétude. Tant que Joseph était esclave, on peut comprendre. Mais dès que Joseph est devenu le vice-roi d'Égypte, de qui il a peur? Il peut très bien envoyer un coursier, un chameau quelconque, et en pays de Canaan pour dire à Jacob, tu sais, je suis vivant. Non, il ne dit pas un mot. Ça veut dire qu'il reste clandestin complètement jusqu'à ce qu'il puisse rendre ce mot de paix, parce que son père l'avait envoyé pour savoir s'il y avait la paix. Ce n'est que lorsqu'ils feront la paix entre eux qu'il dira « Je suis vivant ». Vous avez compris le problème? Bon. Regardez bien ce qui se passe là. C'est que Joseph a reconnu ses frères, le premier. Lui a été capable de reconnaître ses frères. Ses frères ne l'ont pas reconnu jusqu'au bout. C'est clair. Or, c'est exactement ce qui se passe dans notre histoire. C'est que les Juifs, selon Judas, n'arrivent pas à reconnaître Joseph comme leur frère, mais que Joseph arrive à reconnaître les Juifs selon Judas comme ses frères. Dans quel diagnostic d'identité? C'est que Joseph est le porteur de la messianité au niveau historique, national, matériel, alors que Judas est porteur de la messianité au niveau spirituel. Et qu'il est bien évident que les Juifs de la nation juive, même s'ils ne sont pas reliés à la Torah, reconnaissent, même si c'est difficile, les Juifs pieux comme leurs frères. Alors que les Juifs pieux n'arrivent pas à reconnaître les autres comme leurs frères. Jusqu'au bout. C'est ce Yosef-là qui est tzaddik. Et le Gaon de Vilna a donné un enseignement très important qui a été mis par écrit par un de ses élèves. Le livre s'appelle Kol HaTor. Il a été édité par le Rav Kacher dans le Matkoufa Gdola. Et qui cite toutes les sources de la tradition qui montrent que Joseph, c'est l'histoire du sionisme. Je vous donnerai une seule indication. C'est la valeur numérique du mot Yosef en hébreu. C'est la même valeur numérique que le mot de Tzion. Ça veut dire que l'histoire de Yosef, c'est l'histoire de Tzion. Il y a deux étapes. La première étape, c'est la tentative messianique à l'extérieur d'Israël. Elle aboutit à ce que nous appelons le risque de l'assimilation. Lorsque ce juif assimilé au service de l'humanité extérieure diagnostique qu'il va disparaître, c'est lui qui prend l'initiative de la fin de l'exil. Et vous avez dû remarquer que le sionisme a été fondé précisément par ceux qui ont joué le rôle de Joseph dans le monde extérieur. C'est clair. Et c'est pourquoi, selon la tradition, la première partie de l'époque messianique s'appelle Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph, c'est la fin de l'exil, c'est le sionisme. La deuxième partie s'appelle Mashiach ben David, la transfiguration spirituelle. Vous avez compris le problème? Alors, ce que je voulais préciser, c'est cela. C'est que le juif de Judas, qui se définit dans la première étape comme étant juif par la Torah, n'arrive pas à reconnaître que son frère Joseph est tzaddik. Mais le juif de Joseph arrive, lui, à reconnaître que Judas est son frère. Et ce n'est qu'à la fin qu'il se réconcilie dans ce verset-là. Vous avez compris le problème. En d'autres termes, Joseph sans Judas, ce n'est pas Israël. Judas sans Joseph, ce n'est pas Israël. Il faut que Joseph et Judas s'unifient pour qu'Israël apparaisse. Je pense que c'est plus clair comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce que
plus qu'un poil, toute sa, comment on dit, oui, toute sa poitrine, quand le Midrash dit, je vais vous citer ce Midrash, c'est que lorsque Judas diagnostique qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est en train de s'approprier de la force d'Israël au service de l'Égypte, alors il se dresse contre. Et je vais donc lire le verset que je ne voulais pas lire tout à l'heure. Voilà ce que dit ce verset que je vous ai cité. Vaïgash elav Yehuda vayoma bi Adoni yedaverna avdecha dabar beozne Adoni ve'alchach pecha be'avdecha ki chamocha kevar. En français, ça veut dire ceci. Judas s'approche de Joseph et lui dit, donc bi Adoni, je m'étais arrêté là, okay, ton serviteur va dire quelque chose dans les oreilles de mon maître et que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, car tu es comme toi, comme Pharaon. Qui kamocha que Pharaon, comme toi, comme Pharaon. L'explication première, ça consiste à dire, je vais prendre le courage de te parler durement et commence ce plaidoyer, okay, que finalement tu nous as attirés dans un piège. Mais ne te mets pas en colère contre moi, parce que je sais que tu peux tout contre moi, puisque tu as la puissance du Pharaon, comme toi, comme Pharaon. À un deuxième niveau de lecture, on arrive à notre sujet. Ça veut dire, Judas dit à Joseph, démasque-toi. Est-ce que tu es Pharaon ou est-ce que tu es Joseph? C'est au fond l'interpellation d'identité. C'est Moïse qui va finalement être ce Joseph, qui prendra parti pour Israël et pas pour le Pharaon. Je pense que c'est clair. Plus tard, nous avons le même personnage, mais dans le sens inverse. Joseph était l'hébreu déguisé en égyptien. Moïse, c'est cet hébreu déguisé en égyptien qui va prendre parti pour l'hébreu. Alors Judas provoque cette interpellation en disant « Kamocha kefaro » comme toi, comme le pharaon. Lorsque Joseph entend cela, il n'arrive pas à se contenir, il se met à pleurer, il dit « Non, je suis Joseph, votre frère. » Et le Midrash dit à ce moment-là que la colère de Judas, cette negisha, vaïgash, comment tu dis ça, affrontement, quel, de deux rois. Vous prenez les trois mots, Vaïgash et la Yehuda, les dernières lettres de chaque mot forment le mot Shavé. Vaïgash et la Yehuda. Shavé, ça veut dire égal. Le Midrash explique, toi, moi, nous sommes égaux. Machia ben Osé, Machia ben David. Mais tu as pris le parti de Pharaon. Et alors, le Midrash dit, ses poils ont traversé, sont tellement dressés de colère, ils ont traversé son vêtement. C'est à ça que me faisait allusion. Et la. Le Rashi, sur la fin du verset, explique. Ça veut dire, t'arriveras comme le pharaon du temps de Sarah. On revient à notre sujet. Le pharaon a voulu prendre Sarah, s'approprier la matrice d'Israël. Et tu veux faire la même chose en t'appropriant Benjamin. Il t'arrivera à toi comme il est arrivé au pharaon de Sarah. C'est donc cette accusation de la part de Judas, de ce visage d'Israël qui se met au service des nations, et en s'appropriant la matrice hébraïque au service des nations. Vous avez compris le conflit qu'il y a là. Et vous voyez pourquoi, dès le début, cette mise en jugement de Joseph était une mise en jugement pour trahison. Et objectivement, c'est très clair, le fond de la question est de savoir en quel temps nous vivons. Si nous vivons le temps de Joseph, être juif authentique, c'est être comme Joseph. Si nous vivons le temps de Moïse, être juif authentique, c'est être comme Moïse. Et un décalage d'anachronisme, c'est l'erreur de fidélité dont nous avons parlé tout à l'heure. Je pense que c'est clair. En son temps, c'est Joseph qui est tzaddik. En son temps, c'est Moïse qui est tzaddik. Et je pense que c'est visible à l'œil nu que c'est le débat de la problématique contemporaine. Les juifs de diaspora disent peut-être, nous sommes encore au temps de Joseph. Les juifs d'Israël disent sûrement, nous sommes déjà au temps de Moïse. Vous avez compris le problème. Si c'est Joseph qui a raison, eh bien, Moïse se cache. Si c'est Moïse qui a raison, c'est Joseph qui doit se cacher. Mais les deux en même temps sont contradictoires. Je pense que c'est suffisamment clair.
À la barre que l'on obtient le plus haut niveau de la tzedaka, c'est-à-dire le tzedaka.
On peut le mériter bien avant, mais c'est à la mort qu'on le sait. Je reviens donc à notre sujet. Et la remarque que je voulais donc indiquer était importante. C'est pas la vente de Joseph par ses frères qui est la cause de l'exil, c'est l'inverse. C'est parce que l'exil devait commencer que Joseph a été vendu par ses frères. Et donc, en tout cas pour ceux qui ont étudié, assisté hier soir, que lorsqu'on veut effectivement étudier ces problèmes par rapport aux sources traditionnelles, on ne peut pas se borner à des analyses de conférences. Il faut voir les sources en détail et les approfondir pour elles-mêmes. Ce sont des problèmes, on ne peut pas se borner à avoir des opinions, il faut avoir des connaissances sûres de détails. Et au fond, la faiblesse, si j'ose dire, d'un certain milieu de judaïsme pieux par rapport à ces problèmes-là, c'est d'avoir des opinions au lieu d'avoir des connaissances. Je pense que c'est suffisamment. Alors c'est là que le Maharal va commencer l'étude d'une source du Talmud qui se trouve dans le traité de Nedarim, page 32a, où nous allons avoir trois enseignements qui vont nous expliquer pourquoi la descendance d'Abraham est désignée dans l'éventualité de l'exil. Que s'est-il passé dans l'identité d'Abraham pour qu'il s'entende dire, s'il en est ainsi, savoir, tu sauras que ta descendance sera éprouvée par l'exil. Je vais vous demander, si vous voulez, que nous allons prendre 5-6 minutes de détente et on reprend le texte. Ok.
Tu as des questions?
Oui, j'ai compris.
On peut nous poser la question?
Oui, on me demande comment se comporter de telle sorte d'avoir bonne conscience si on reste dans la diaspora. Mais je crois qu'il y a effectivement des obstacles, des empêchements à l'échelle individuelle et que surtout il ne faut pas avoir bonne conscience. Et oui, et je crois, mais vous savez, moi je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas donner de règles communes à tous les individus. Chaque cas est un cas particulier malgré tout. Seulement, le juif de diaspora, à travers des siècles et des millénaires, a toujours ressenti la situation d'exil comme un enfer. Dès que l'on perd cette expérience, on perd l'identité juive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Il y a un midrash qui dit que Dieu a proposé à Abraham, à Isaac et à Jacob, donc ça veut dire que c'est un thème d'identité, de choisir dans la problématique suivante. Il dit, qu'est-ce que tu préfères pour ta descendance, l'enfer ou l'exil? Et d'après le midrash, paraît-il que les patriarches ont réfléchi avant de répondre, comme s'il y avait une différence. Et finalement, ils ont répondu, l'exil. C'est un midrash étonnant. Okay. Alors, je vais terminer de l'expliquer. L'explication est la suivante. C'est que si Israël ne joue pas son rôle dans l'histoire des hommes, l'humanité ira en enfer. Et il faudra qu'Israël aille en enfer pour faire son travail. Alors, tant qu'à faire, le faire en exil. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'expérience profonde de la situation d'exil, c'est vraiment une situation d'enfer. Alors si on perd cette expérience, on finit par perdre le sentiment de l'identité juive, et c'est une aventure très dangereuse, parce que malheureusement l'histoire montre que les nations ne veulent pas, comme si elles ne pouvaient pas, laisser les juifs s'assimiler. Chaque fois que les juifs veulent s'assimiler, les nations refusent de façon très grave, très dangereuse. Et je dis, il y a là un élément caduque de cette histoire qu'il faut mettre en évidence. Encore une fois, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ça, c'est caduque parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que l'exil a pris fin. Alors continuer, si vous voulez, une cohérence ancienne, c'est vraiment caduque. Je ne sais pas comment dire cela. Et je crois tout simplement qu'il faut, enfin les chrétiens diraient, porter sa croix. Et nous, nous pouvons dire que porter son Magen David. Mais avoir bonne conscience, je ne crois pas qu'on puisse l'avoir. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Peut-être, d'ailleurs, vous m'aiderez à préciser cela, c'est une expérience que j'ai eue, en étudiant l'histoire de deux époques la symbiose judéo-goy, judéo-non-juif, avait réussi. La première période, c'est la civilisation espagnole. La symbiose judéo-espagnole avait réussi de façon extraordinaire. S'il y a encore parmi nous des juifs descendants de ces communautés, des judéo-espagnols, vous savez à quel point un type humain a existé là, qui était le lien entre Israël et les nations, au temps où le visage de la civilisation universelle, c'était l'Espagne. C'était le moment précis où les juifs devaient décrocher l'Espagne et rentrer en Israël. Le langage avait été forgé, la sympathie des identités était très profonde. Or, à ce moment-là, les juifs se sont pris pour des Espagnols. Les Espagnols ont répondu par l'Inquisition. Le deuxième épisode, c'est l'Allemagne. Au siècle précédent, la symbiose judéo-allemande a été encore plus réussie que la symbiose sfaradite, judéo-espagnole. Et celle-là, c'était la symbiose ashkénazite. Oui, ça c'est nos deux embranchements de l'exil, les uns et les autres, les sfaradim et les ashkénazim. Un, c'est le judéo-espagnol, et l'autre, c'est le judéo-allemand. Lisez la littérature, pour ne parler que de la littérature, du siècle précédent et du commencement de ce siècle, en Allemagne, et vous verrez à quel point la symbiose judéo-allemande avait été réussie. C'était le moment de décrocher, là encore, on n'a pas décroché. Les juifs se sont pris pour des Allemands. Alors les Allemands ont dit aux juifs, vous allez voir ce que c'est que des Allemands, le nazisme. Aujourd'hui, je crois que nous vivons de nouveau une occurrence très analogue avec l'Amérique. La symbiose judéo-américaine est en train de prendre de manière inquiétante. Alors je ne sais pas quelle sera la suite, mais il n'y a pas de raison que les lois de l'histoire se démentent. C'est donc le moment pour les juifs américains de décrocher. Parce que l'Amérique se judaïse et les juifs s'américanisent et c'est dangereux des deux côtés. Et je crois d'ailleurs que la communauté en France tend très dangereusement à prendre la communauté américaine comme modèle. Et peut-être que la symbiose judéo-française est en train de prendre de façon très profonde. Si on lit la littérature française contemporaine, on ne peut pas ne pas être affolé de cela. C'est une symbiose artificielle, frelatée, parce que tout ce qui s'écrit du judaïsme en français est pratiquement faux dans les livres qui paraissent actuellement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une symbiose qui est en train de prendre. La femme de Poutiphar a dit à Joseph, tu es à moi. Vous comprenez ce que je ne veux pas dire, okay? Eh bien, que je dis quand même. Là, donc c'est très dangereux. Il risque d'y avoir un antisémitisme de réaction extrêmement néfaste. Par conséquent, comment vous voulez que je vous donne les moyens d'avoir bonne conscience là-dedans, okay? Je sais pas bien. Oui, eh bien, vous devinez que je ne fais pas partie de ces synagogues-là. Actuellement, allez leur demander pourquoi. Vous savez, un jour, j'ai demandé à un rabbin américain, j'ai posé une question innocente. Vous savez qu'il n'y a pas de question innocente. Je lui ai dit, dis-moi, en hébreu, je lui ai dit, dis-moi, où c'est normal qu'un juif vive ? À Jérusalem ou à Chicago ?
Il a hésité, alors disqualifié.
Je pense que c'est clair ce que je dis là. Ben écoutez, je vais vous dire, c'est ça qui est très grave. Et je suis désolé d'avoir à vous répondre ce matin, mais je vous réponds quand même. J'aurais préféré que mon collègue et néanmoins ami Michel Prince soit là, mais il sera là jeudi soir. Parce que là, on va s'attraper, parce que les questions sont sérieuses. Je veux dire, il se passe chez les rabbins ce qui se passe dans tous les métiers. Je ne sais pas si on peut dire que rabbin, c'est un métier. On parle du corps rabbinique comme on parle des corps de métier. Et j'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi on parle du corps rabbinique. On devrait parler au moins de l'esprit rabbinique. Moi, c'est un métier. Et je dois d'ailleurs vous dire que je ne suis pas rabbin de profession, même si c'est mon titre. C'est notre problème. Et alors, je prends un exemple que je donne souvent. Prenez chez les juristes, chez les avocats. À part une formation de base, il y a des spécialités. Alors vous avez des rabbins qui sont spécialistes de beaucoup de spécialités, sauf une qu'ils n'ont pas étudiée, le sens de l'histoire juive. C'est tout. Alors ils peuvent avoir des connaissances dans énormément de domaines. Et dans ces domaines-là, ils sont respectables. Mais peut-être que dans ces domaines, on n'a pas besoin d'eux, c'est notre problème, parce qu'on en a un autre. Mais dans l'essentiel, la foi juive, comment réagir aux grands événements, qu'est-ce que la Torah dit, et non pas qu'est-ce que eux, juifs pieux, pensent, ce qui n'est pas forcément la même chose. Okay? Alors là, ils ne sont peut-être pas compétents. Ça n'enlève en rien à leur dignité lorsqu'ils fonctionnent dans leurs compétences. Par exemple, je connais des rabbins qui pourront vous dire avec certitude et assurance si un os de poulet est cachère ou pas. C'est très respectable. Mais de savoir dans quel temps de l'histoire nous vivons, ils vous diront leur opinion. Eh bien, pour ça, on n'a pas besoin d'eux. Je pense que c'est clair. C'est très grave, mais c'est la situation actuelle. Je crois qu'il y a une option de foi qui est au-delà et de l'érudition et de l'idéologie. Et qu'il faut sentir ça. L'option de l'histoire d'Israël, c'est que dès qu'on a pu revenir à Jérusalem, on est revenu aux grandes dames de l'humanité entière. Mais c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Et que Jérusalem soit pratiquement, disons Israël, on appelle ça en français le Moyen-Orient, que soit le centre d'une tornade de l'humanité entière, c'est normal, c'est écrit comme ça dans la Bible. Je vous dirais, à la manière des blagues israéliennes, l'humanité entière contre Israël, ça nous rassure. Les Juifs en plus, ça nous inquiète. Alors quand ce sont des rabbins, c'est grave. Voilà, c'est ça le fond du problème. Je pense que c'est clair. On ne peut pas en sortir. Voilà, seulement voilà, c'est très bien. C'était effectivement la raison pour laquelle Judas a la puce à l'oreille, si j'ose dire. Il s'est dit quelque chose de bizarre. Cet étonnement est très clair. Comment il peut dire ça sans se moquer, aller en paix alors qu'ils sont en pleine panique? Seulement, en hébreu, il y a deux expressions différentes. Celle de la méchanceté serait « alou be shalom ». Celle du tzedek, c'est « alou le shalom ». Aller à la paix. Dans la vie, c'est l'échalom. Dans la mort, c'est béchalom. L'ech béchalom, ça veut dire mort, meurt en paix. Et la paix éternelle, comme on dit, je sais pas. Et c'est surtout le mot de halou, monter. C'est le mot qui sera repris par le vocabulaire de la Bible pour dire la halia. Okay. Et là, Judas est, comment dire, plus qu'intrigué. Il entend que celui qui parle n'est pas le pharaon. C'est pas possible. Alors, c'est là qu'il va provoquer le fait que Joseph se dévoilera. Et je crois qu'effectivement, jusqu'au bout, et c'est pourquoi nous avons un principe, il n'y a aucune parole de la Bible qui est mensongère. Et lorsque Judas dit à Joseph,